bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du samedi soir entre 20h et 21h. Rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission et une station très présents sur internet. Le site d'Agora, c'est agoracotedazur.fr. Vous retrouvez sur ce site notamment tous les podcasts de notre émission. L'émission L'Oreille qui gratte est-elle très présente sur les réseaux sociaux? Nous avons une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, une page Spotify. Pour nous accompagner derrière les manettes, comme tous les mardis, c'est Nancy Zautier, merci. Comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier qui vient de me reprendre car je me suis trompé. Merci Nancy d'être avec nous et merci d'avoir accepté de changer à la dernière minute la programmation de ce soir. Nous devions recevoir la chanteuse de Kourou de Béra, mais malheureusement elle a eu un empêchement. Et c'est Jean-Sylvain Cabot qui a très gentiment accepté de venir au micro d'Agora Côte d'Azur ce soir. Bonsoir Jean-Sylvain.
Bonsoir Simon.
Merci vraiment infiniment d'être avec nous. Jean-Sylvain et moi, on se croise depuis des années puisqu'on habite dans la même commune et qu'on a la même passion pour la musique et pour le cinéma. On se croise, mais on t'a jamais fait venir à L'Oreille qui gratte. On attendait une actualité et là tu as une actualité toute chaude avec la sortie d'un bouquin.
Eh bien, c'est en effet une actualité brûlante puisque mon dernier livre est consacré à Jeff Beck aux éditions Le Mot et le Reste, vient de sortir le 18 octobre.
D'accord, très bien. Donc tu as le livre à ta gauche, voilà, un bouquin que tu as écrit, et tu n'as pas écrit que celui-là. On reviendra sur ton parcours, tu sors des bouquins assez régulièrement et tu as été journaliste rock. Donc on va parler de tout ça, tu es avec nous jusqu'à 21h. On va principalement parler de Jeff Beck, mais il se passera d'autres choses, tu iras sur une île déserte notamment, en fin d'émission. Voilà, la programmation c'est toi qui l'as prévue à 100%, et tu as prévu de démarrer par, c'est logique, c'est chronologique, par un morceau des Yardbirds, c'est ça?
Tout à fait. Un titre qui s'appelle Heartful of Soul.
On l'écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. Sacred heart of lonely, deep in dark despair. Tell me where, and if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea, and I know, well, if she had me back again, well, I would never make her sad. I'm not a heartful soul. Recevons ce soir Jean-Sylvain Cabot qui vient nous parler de son dernier bouquin qui vient tout juste de sortir, Au mot et au reste, un bouquin sur Jeff Beck. C'est pour ça qu'on a démarré cette émission avec ce morceau de Yardbirds, un morceau qui met une pêche incroyable. Mais avant qu'on parle de Jeff Beck, on va parler un peu de toi, Jean-Sylvain. Raconte-nous ton parcours, puisque je sais que tu as été journaliste rock ou
rock critique. Oui, mon principal heure de gloire, c'est quand j'étais chroniqueur rock à magazine Rock'n'Folk, que je lisais depuis mon adolescence, parce qu'avant d'être un chroniqueur, j'ai été un lecteur. Comme des fois, avant d'être cinéaste, on regarde des films et puis on fait des courts-métrages, etc. Donc moi, j'ai toujours été passionné par le rock dès mes années de collège et après de lycée. Et puis un jour, j'achetais Rock'n'Folk tous les mois, et puis je voyais que j'adorais Robin Trower, par exemple, qui était l'ancien guitariste de Procol Harum. Et je me dis, tiens, ils n'en ont pas parlé. Je vais écrire une chronique, et je l'envoie. Et le mois suivant, j'ai l'agréable surprise, l'heureuse surprise de voir qu'ils ont publié cette chronique. Donc je les ai contactés, et à l'époque, ils cherchaient quelqu'un pour un peu s'occuper du hard rock, parce que Philippe Manoff, ça l'intéressait plus trop, enfin, il était très occupé par ailleurs. Et j'ai été embauché très rapidement en mai 80 par là, et après je me suis occupé de... Il y a Thierry Chatin qui m'a rejoint sur le hard rock, on était un créneau, donc on était deux à faire spécialement le hard rock, mais j'avais d'autres centres d'intérêt évidemment, comme le blues, auquel j'essayais de passer aussi des disques de blues. Et donc ça a été une grande époque, pendant 5 ans j'ai été chroniqueur à Rock'n'Folk, de 80 à 85, mais j'ai quitté la région parisienne pour raison de santé, parce que je suis asthmatique quand même, et je suis arrivé à Vence en 85, et donc j'ai dû quand même arrêter ces activités-là. Et je me suis dirigé vers d'autres activités plus professionnelles, et surtout, j'ai dû essayer de faire un travail, mais évidemment moins passionnant que le rock'n'roll, qu'écrire, puisque quand même on est payé pour écouter de la musique ou écrire sur des gens, c'est quand même formidable, comme disait Moon Martin, je crois, à une époque. Dans les années 2000, j'ai rencontré Philippe Robert à la médiathèque de Nice, la médiathèque Louis Nucera, et on a sympathisé, et il me connaissait d'ailleurs, puisqu'il lisait, mais il connaissait, c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui m'a dit qu'on pourrait faire un livre en commun, au moins le reste. On a écrit deux volumes sur le hard rock, les origines du hard rock de 66 à 78, et un deuxième volume des années 2000. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Après, j'ai fait plusieurs ouvrages, comme tu as eu la gentillesse de le rappeler tout à l'heure, notamment Fleetwood Mac, Deep Purple, qui a été réédité en 2021. C'est mon best, pratiquement, c'est mon best-seller. Fleetwood Mac, donc les Who, Eric Clapton, et le petit dernier, donc Jeff Beck, qui vient de sortir.
D'accord, tu t'es éloigné du hard rock finalement, au fur et à mesure de ta carrière.
Parce que je n'ai pas que le hard rock comme intérêt, moi j'aime autant les Beatles, la pop anglaise que le blues, le rhythm and blues, mais le hard rock, j'aime beaucoup de tendresse et d'affection pour les groupes qui à l'époque me berçaient, c'est-à-dire c'était les Who, le Live at Leeds, c'était Mountain, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, tout ça c'est quand même des souvenirs de collège, de lycéen, et on se passait ces disques le soir au foyer ou pendant le week-end, mais c'était aussi Jet Retul, le Pink Floyd et plein d'autres.
Est-ce qu'on peut faire le lien, c'est que dans le hard rock ils maîtrisent la technique, les musiciens la plupart du temps, et là ce que tu quand tu écris sur Clapton, sur Jeff Beck, sur les Who, à chaque fois t'as affaire à des techniciens pour le coup, donc le lien il est peut-être là.
Peut-être, oui. En tout cas c'est quand même des musiciens que j'aime, parce que moi je n'écris pas, j'écris pour la gloire, j'écris pas pour devenir célèbre et gagner de l'argent, aller partir m'acheter je sais pas quoi des villes. Non, j'écris pour le plaisir, c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir, ça reste, et ça doit rester un plaisir, et je n'écris que sur les gens que j'aime beaucoup.
Et quand tu travaillais pour Rock'n'Folk, c'était ton métier?
Je mettais des études parallèles sur le cinéma, j'ai des études de cinéma, donc c'était une activité parallèle, mais ça prenait beaucoup de temps en effet, parce qu'il fallait rencontrer des vedettes, aller les interviewer à leur hôtel quand ils passaient à Paris, quand ils avaient un concert, donc après le concert, avant le concert, bref, des fois on pouvait... et puis il y avait des chroniques de disques, donc c'est vrai que c'était un travail assez prenant, mais évidemment c'était formidable, j'ai pas de regrets sur cette époque.
Eh ben voilà pour ton parcours. Maintenant qu'on a parlé de ton parcours, on va rentrer dans Jeff Beck, mais avant d'entrer dans Jeff Beck, la programmation que tu nous proposes ce soir, Jean-Sylvain, c'est Jeff Beck avec Jimmy Page, c'est bien ça?
Alors ce deuxième morceau, en effet, c'est le fameux Beck's Bolero, qui date de 66. Alors Jeff Beck est encore avec les Yardbirds, puisqu'il a remplacé Eric Clapton en mars 65. Et il va partir fin 66, puisqu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est une époque où les Yardbirds essayent de faire autre chose. En tout cas, leur producteur leur dit essayer de faire des choses un peu différentes. Et Keith Relf, le chanteur, va faire des disques, les 45 tours. Et Jeff Beck, il avait déjà rencontré Jimmy Page, c'était un ami, puisqu'ils s'étaient rencontrés plus jeunes. Ils avaient découvert une passion commune pour le rockabilly, le rock'n'roll, etc. Et donc, ils se fréquentaient souvent, ils répétaient, ils allaient jouer ensemble. Enfin,
Jean-Sylvain, je te propose qu'on écoute ce
d'accord.
morceau. Et puis après,
on en parle.
Envie d'en parler et on a envie de t'écouter. On écoute Beck Bolero. et après on rentre dans la discussion sur Jeff Beck avec Jean-Sylvain Cabot que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. Sur Agora Côte d'Azur, Jean-Sylvain Cabot, qui est écrivain et qui vient nous parler du dernier livre qu'il a publié chez Le Mot et le Reste, un livre sur le musicien Jeff Beck. On a déjà écouté deux morceaux de Jeff Beck dans cette émission, un avec son groupe les Yardbirds et un avec Jimmy Page. Donc est-ce que tu peux, s'il te plaît, Jean-Sylvain, nous relater le parcours de ce garçon alors ?
Bah Jeff Beck, il est intéressant parce que il fait partie de la trilogie anglaise des grands guitaristes anglais, Eric Clapton au sein des Yardbirds, qui est un groupe séminal vraiment du rock anglais, où se sont succédés, il y a eu Top Topham, qui est le moins connu, le plus jeune, ensuite Eric Clapton, qui a fait quand même plusieurs mois, un an et demi je crois, ensuite Jeff Beck a pris sa place sur les conseils de Jimmy Page, parce que les Yardbirds, ils n'avaient pas pensé à Jeff Beck, ils ne le connaissaient pas. Et il demande à Jimmy Page, tu veux pas prendre la place de Clapton ? Page a dit non, moi je suis musicien de studio, je gagne très bien ma vie, par contre je connais quelqu'un, j'ai un copain, je peux vous le conseiller. Et il a conseillé Jeff Beck, il s'est pointé une audition et bah, il savait tout jouer les morceaux de Clapton, il savait aussi jouer enfin, plein de trucs, et il est resté plus de 18 mois. Et c'est quand même une période très inventive pour les Yardbirds, je pense que c'est leur meilleure période, où ils inventent, grâce aussi à Jeff Beck, qui invente des choses, qui joue du feedback, qui des sons nouveaux, et qui est toujours à la recherche de choses nouvelles. Et le groupe va écrire ses plus grandes chansons. Alors, ils n'écrivent pas toujours, mais là, par exemple, le morceau qu'on a écouté, Heartful of Soul, c'est le deuxième morceau de Graham Gouldman. Graham Gouldman, c'est le compositeur qui leur a écrit For Your Love, qui a été leur premier tube, alors là, avec Eric Clapton. Et ce qui a provoqué le succès du titre For Your Love a provoqué le départ de Clapton. Il trouvait ça trop pop, trop commercial.
Et Jeff Beck, à ce moment-là, quand il est dans ce groupe, il est simple musicien.
Il a déjà une expérience musicale. Hein, il a découvert la guitare assez jeune, après essayer du piano ou de la batterie. Et il a joué avec des petits groupes locaux, enfin les Tridents. Il est quand même connu dans le milieu. Alors, d'ailleurs, quand Clapton a su que c'était un certain Jeff Beck qui allait le remplacer, il est allé le voir en concert. Et il s'est dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être incroyable ce mec, tout ce qu'il fait, mais bon, je ne sais pas si ça va marcher, est-ce qu'il va convenir au groupe. Et finalement, quand ils l'ont reçu, ils ont vu que c'était un type très sympa, très sensible, très drôle aussi, beaucoup d'humour. Mais il est arrivé avec les mains pleines de cambouis, un jean sale, parce que Jeff Beck n'a pas que la guitare ou la musique comme passion, sa deuxième passion, peut-être la première, je n'en sais rien, c'est les hot rods. Les fameuses machines, les véhicules américains qu'on reconstruit, qu'on démonte et qu'on construit pour leur donner plus de puissance et de rapide et de vitesse. Et ça, c'est vraiment sa passion, la mécanique,
d'accord,
les moteurs.
Ah bah okay. Et il a quel âge, Jeff Beck, à ce moment-là, quand il rentre dans les Yardbirds?
Oh, il a 20 ans, 21
ans.
Et
tout
il est né en 44.
Mais
voilà,
comment tu peux expliquer que dans un groupe, il y a eu Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Ronnie Wood.
C'est comme pendant la Renaissance, là, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Il y a un concours de circonstances qui fait qu'il y a une époque où tout le monde est là. Et regardez, là, les années 60, en 2-3 ans, entre 65 et 68, tu as grandi. Tu as les grands noms de la pop musique et du rock, ils sont tous là au rendez-vous.
Ouais, ouais.
C'est quand même curieux, c'est une partie de l'histoire, je ne sais pas.
Pas
d'explication.
J'espère que je ne dis pas des conneries, mais je suis grand fan de Serge Gainsbourg et donc de Jane Birkin. Donc, quand Jane est décédée, j'ai regardé à nouveau toute sa filmographie et son premier film, c'est Blow Up. Et il me semble que les Yardbirds jouent dans ce film.
Eh bien, Simon, merci, c'est tout à fait vrai. Je vois que tu es un vrai cinéphile. Puisqu'en effet, cette histoire de Yardbirds, de Blow Up, c'est en 66. C'est Michelangelo, Antonioni qui cherchait, puisqu'il y avait une scène dans un club anglais, puisque ça se passe durant les Swinging Sixties à Londres, l'histoire du photographe.
Extraordinaire.
Et il y a une scène. Mais... Alors, ils cherchaient un groupe. Alors, ils ont proposé au Velvet Underground, mais il y avait trop de frais de dépenses de venir d'Amérique et tout, ça s'est pas fait. Ils ont proposé ensuite à un groupe qui s'appelait Tomorrow, dans lequel jouait le futur guitariste de Yes, Steve Howe, mais il fallait casser une guitare. Et Steve Howe, ça n'intéressait pas. Après, ils se sont adressés aux Who, les Who de Pete Townshend, qui eux étaient des spécialistes de la destruction de guitares, entre autres. Et par contre, le cachet qu'ils ont demandé était un peu trop énorme, un peu trop élevé pour Antonioni. Donc finalement, c'est le manager des Yardbirds à l'époque qui a dit « Moi j'ai un groupe, hein, là, si vous voulez, ils sont moins chers que les Who ». Et ça s'est très bien passé. Alors, évidemment, ce sont des guitares un peu bon marché, hein, puisqu'ils en ont acheté plusieurs pour les casser. Ils n'ont pas fait une prise, tu te donnes bien, donc ils ont cassé plusieurs guitares. Et tu sais, Jeff Beck, qui est le spécialiste un peu aussi à l'époque, il avait des problèmes d'ampli, alors qui provoquaient beaucoup d'énervement et de colère rageuse, et où il s'amusait à casser un peu, taper contre sa guitare. Alors comme Pitonson d'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Et Pitonson le faisait dans un geste un petit peu arty.
On va revenir à la musique et avec Spanish Boots, on prononce comme ça ?
Spanish Boots.
Voilà, on écoute, tu nous en parleras après, tu as tellement de choses à nous dire sur Jeff Beck. Nous recevons Jean-Sylvain Cabot qui nous présente son livre sur Jeff Beck, au mot et au reste ce soir sur Agora Côte d'Azur.
old Spanish boots.
Recevons Jean-Sylvain Cabot sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte ce soir, qui nous parle de son dernier livre édité au Mot et au Reste, un livre sur Jeff Beck. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter là, Jean-Sylvain ?
Alors bien, on est en 69, on vient d'écouter un morceau de l'album Beck Ola, qui est le deuxième morceau du premier Jeff Beck Group que Beck a fondé après son départ des Yardbirds. Et après une année de tâtonnement, il a trouvé Rod Stewart, qui lui aussi était parti de son groupe avec Lon John Baldry, donc il était au chômage. Et il a réuni avec Rod Stewart et Ron Wood, le futur Rolling Stone, Ron Wood, et puis un batteur. Et donc c'est leur deuxième. Alors ils ont fait un album de blues en 68, le s'appelle Through. Donc c'est leur premier disque, qui est vraiment dans l'époque du blues boom, hein, en 68, Daniels After, Fleetwood Mac, etc. Et là, Beck Ola, c'est plutôt une orientation plutôt heavy, plutôt hard rock. D'ailleurs, il le dit dans le. Jeff Beck a un petit préliminaire sur la pochette du disque qui dit qu'aujourd'hui la mode est à la heavy music, donc on va faire de la heavy music, hein, grosso modo. Et par contre, c'est un disque complètement un petit peu, je dirais pas improvisé, mais il n'avait pas beaucoup de compositions. Et d'ailleurs, il y a deux reprises. Il y a une reprise de Old Shock Up dans ce disque, de Jailwood Ross, des titres qu'on connaît par Elvis Presley. Donc il y a une urgence dans ce disque qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un disque qu'on identifie visuellement avec une pochette la chambre d'écoute, un tableau de Magritte. Voilà, donc très célèbre pochette.
Est-ce que tu es venu avec les disques forcément, Jean-Sylvain, tout ce qu'on écoute? Et effectivement, c'est la pochette. Et c'est, pour moi, c'était le premier album de Jeff Beck, ce qui est à peu près le cas d'ailleurs dans ce que tu viens d'expliquer.
Alors, c'est le deuxième du Jeff Beck Group, voilà, avec Rod Stewart, c'est leur deuxième album. Mais là, après, Stewart va partir. Et Jeff Beck va se retrouver de nouveau tout seul.
Donc d'accord, sur cet album. Avant, on avait écouté, on n'en a pas parlé, le morceau avec Jimmy Page. Ça, c'est extrait de quoi? Bolero.
Alors, Bolero, Beck's Bolero, qui est sorti en single. Et en fait, c'est une tentative pour les Yardbirds de faire autre chose que les tubes, parce que le groupe avait des tensions, il y avait des pressions, bon, bref. Et le producteur a dit, essayez de faire des choses un peu différentes. Et donc, un jour, Beck est réuni Jimmy Page, Keith Moon des Who, le batteur des Who, Nicky Hopkins, le pianiste, et John Entwistle des Who, le bassiste, qui devait venir mais qui a annulé au dernier moment, et c'est John Paul Jones qui les a rejoints, qui était un musicien de studio. Et donc c'est vraiment un duo, le seul morceau où ils ont joué ensemble et composé. Alors, il y a eu des petites disputes sur la paternité du morceau. Beck dit qu'il a amené la mélodie, etc. Donc, non, mais c'est Beck, c'est moi qui ai amené, bref. Donc, il y a eu plus des disputes. D'ailleurs, les premiers 45 tours, compositeur, c'est marqué Jeff Beck. Et après, les suivants, c'est Jimmy Page qui a rétabli la vérité.
Et bon, c'est sous leur nom, c'est pas sous le nom de Yardbirds.
Non,
c'est
sous le nom Jimmy Page, Jeff Beck, mais il est sorti en single, le morceau. Bon, ils sont restés très amis après, hein, il y a eu des petits froids, mais ils sont restés quand même amis durant toute la vie de Jeff Beck. Jimmy Page a été un ami très proche.
D'accord, bon, absolument incroyable. Moi, ce groupe avec toutes ces stars, enfin, je.
Et c'est quand même ce morceau qui va donner naissance un peu à Led Zeppelin, puisque Keith Moon, le batteur, à la fin de la séance, dit Page parlait de faire de créer un groupe. Et il dit, oh non, mais créez pas un super groupe, ça va s'écraser comme un Led Zeppelin, enfin comme un Zeppelin plombé. Ben. Et d'ailleurs, parce qu'on a déjà John Paul Jones, qui est là, le bassiste de Led Zeppelin, est déjà dans le studio sur Beck's Bolero.
Ce qu'on vient d'écouter, la Beck Ola, le deuxième album de Jeff Beck, donc groupe. Oui. Il y a du succès, ça marche.
Ça a marché aux États-Unis en concert, ça a énormément marché. Ils ont fait un triomphe aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'avec le premier album, avec Slow, ils ont tourné, ils ont fait vraiment un triomphe. Ils ont des grands articles très élogieux dans la presse américaine, dans le New York Times, je crois, Robert Kilgo. Et donc, ils arrêtent. Mais ils n'ont pas eu le temps. En fait, ils ont été pris à la gorge un peu par le succès. Et dans l'urgence, il a fallu qu'ils sortent un disque, mais ils n'avaient pas de chansons de prête. et parce que Beck n'est pas un compositeur non plus, et donc c'est un disque plutôt qui bouillonne, qui a d'une énergie un peu torrentielle, et qu'on considère généralement dans l'histoire, hein, les historiens du rock, comme un des précurseurs du hard rock naissant, puisque Led Zeppelin sort pratiquement deux albums en 69, et là nous sommes aussi en 69. Donc un album historiquement important, mais pas commercialement pour Jeff Beck.
D'accord, allez, on revient à la programmation musicale que tu nous as préparée, Jean-Sylvain, avec le morceau Spanish Boots.
Non.
C'est pas ça, on en est auquel alors?
Superstition.
Ah bah oui, on va de l'écouter, Spanish Boots avec Superstition, pardon, heureusement que tu suis, toi. bien Superstition que nous venons d'écouter. Beck, ils étaient trois à ce moment-là, d'après ce que j'ai écrit, avec Bogart, c'est Apice.
Apice. Alors, Apice. Donc, en effet, c'est la période un peu power trio. En effet, donc après son accident de moto, il a été immobilisé, hein, Jeff Beck, pendant 2 ans. Et lui, son rêve, c'était de jouer avec la rythmique de Vanilla Fudge. Vanilla Fudge est un groupe un peu oublié aujourd'hui, mais qui a eu un gros succès dans les années 68. D'ailleurs, Deep Purple raffolait de Vanilla Fudge. Ça a été une grande sensation quand ils sont venus à Londres. Et ensuite, ils ont fondé Cactus avec un guitariste Jeff McCarthy et un chanteur. Et Beck, très vite, il dit, il faut que je travaille avec ces mecs-là. Bogart, c'est un bassiste monumental, et Carmine Appice, un batteur sensationnel. Mais ça n'a pas pu se faire tout de suite à cause de plusieurs problèmes. Et en 73, bah, finalement, tout le monde est libre. Tout le monde est prêt pour cette nouvelle aventure et ils se retrouvent donc en studio pour produire un nouveau disque qui s'appellera donc Beck, Bogert et Appice. Et à l'époque, Beck avait déjà fait deux groupes, Jeff Beck Group avec Rod Stewart, puis après un Jeff Beck Group sans Rod Stewart, plutôt orienté rhythm and blues, soul, funk, hein, un rhythm and blues un peu rock, un peu voilà. C'était la tendance, un saut Memphis, le Motown Sound, mais agrémenté d'une sauce rock quand même assez importante. Bah, il était un peu fasciné par, il adorait le rhythm and blues. Et à l'époque, il avait un nouveau crush, c'était Stevie Wonder, et il a voulu rencontrer Stevie Wonder. Et ils se sont mis d'accord sur un deal. Je joue sur un de tes morceaux, et toi, Stevie, tu me composes un morceau. Bon, alors Beck, il joue sur un ou deux, trois morceaux de Stevie Wonder, là, qui se retrouveront sur un des albums de Stevie. Et puis, à un moment donné, dans le studio, Beck, il se met à la batterie, il commence à jouer un petit truc, parce qu'il avait fait de la batterie oui, quand il est plus jeune. Stevie Wonder arrive, il joue un riff au clavier, là, et tout d'un coup, putain, ça c'est bon, et Beck est tout content. Il dit, ouais, super, un super morceau, génial, il va me le filer, c'est super. Manque de peau, ben non, Stevie Wonder, une fois le morceau fini, il s'en va, il va le montrer à Brigordi, le patron de la Motown, et il dit, bah oui, tiens, on le signe, et ça devient un numéro 1 pour Stevie Wonder. Il rajoutera des paroles, etc. Donc, évidemment, Beck, là, a été très, très vexé. Il aura quelques mots un peu amers dans la presse sur Stevie Wonder. Bon, ils se réconcilieront plus tard, évidemment, puisqu'ils rejoueront ensemble sur scène le morceau Superstition. Mais Jeff Beck, donc, a gardé le morceau pour le jouer. Et c'était un des standards de ses concerts à l'époque avec le trio Bogart et Appice.
Et toi, parlons, et souvenons-nous de Jeff Beck. Toi, tu es tombé dans Jeff Beck comment ? Ta relation avec Jeff Beck, elle a démarré
où ? Moi, c'est les Yardbirds, qui était un de mes groupes préférés de l'époque. Donc, j'ai toujours adoré les Yardbirds, avec les Cream, avec John Mayall, les Clapton, mais surtout les Yardbirds, c'est un de mes groupes préférés des années 60.
Donc,
j'ai toujours suivi un peu Jeff Beck jusqu'au milieu des années 80. Donc, j'ai suivi jusqu'à une période où après, on l'a un peu perdu de vue à partir des 85, 80, voilà, j'ai un peu perdu mais j'ai toujours suivi.
Et tu as, comme tu étais rock critique, tu as eu la chance de le rencontrer?
Non, ou, malheureusement, j'ai pas eu ce genre, parce que Jeff Beck, à un moment, sa carrière, il a beaucoup joué aux États-Unis et il venait presque plus en Angleterre ou en Europe. Il a beaucoup axé dans les années 70 à cause du succès, donc on va peut-être en parler, de sa période jazz fusion qui approche bientôt. On l'a très peu vu en Europe. Et puis, il a pas eu beaucoup de chance. En 71, il a joué au Châtelet. Il a failli jouer parce que il a joué une première fois et l'année, quelques mois après, il revient et il était très très méfiant par rapport à l'électricité. Ils ont annulé le concert. Ça a fait un tollé général. Les chaises ont été cassées, etc. Il a eu une lettre d'excuse dans Rock and Folk qui est parue. Nous sommes désolés, mais on n'a pas pris le risque d'avoir un problème électrique ou de s'électrocuter. On reviendra, mais ils sont jamais revenus.
Allez, on revient à la programmation musicale avec le morceau Lead Boots, c'est ça?
C'est ça.
C'est ça. Allez, on l'écoute. C'est la sélection de Jean-Sylvain Cabot ce soir à l'oreille qui gratte pour nous présenter son livre sur Jeff Beck, au mot et au reste. We'll be right back. Vous êtes sur Agora Côte d'Azur, vous écoutez L'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Nous recevons ce soir Jean-Sylvain Cabot. C'est une émission littéraire ce soir, puisque Jean-Sylvain vient nous parler de son dernier livre sur Jeff Beck, édité Au mot et au reste. Avant d'ailleurs, tiens, parlons un peu de toi, avant de revenir à Jeff Beck, le métier d'écrivain, c'est quoi, ce métier?
Alors,
solitaire,
je me considère pas comme un écrivain, premièrement. Et moi, j'ai été journaliste, critique rock, voilà. Donc, je pense que c'est plus de l'écriture journalistique, des essais, qu'un écrivain. J'essaye d'abord d'écrire simplement, lisiblement, le plus documenté possible, le plus sérieusement possible, le plus honnêtement possible. Moi, ce que je me dis, je suis un journaliste qui écrit des livres, des biographies, avec musique, avec l'aspect musical qui m'importe beaucoup, de faire découvrir, voilà. C'est plutôt des biographies musicales.
D'accord.
Mais je ne me considère pas comme un écrivain.
Ça représente quoi comme travail, un bouquin comme ça?
Alors ça dépend des livres, parce que moi j'ai écrit quand même quand j'étais salarié, j'ai quand même travaillé dans ma vie comme un salarié, hein, normal, et donc j'avais que le temps des vacances pour écrire, ou les week-ends, ou le soir, donc jusqu'à cet ouvrage, ou Jeff Beck, là, que j'ai fait puisque je suis à la retraite depuis 3 ans, mais sinon tous les autres, je les ai écrits pendant mon activité salariée, donc en parallèle. Donc évidemment, ça demande beaucoup d'énergie de trouver la ressource de travailler le week-end ou en vacances pour écrire, c'est pas toujours évident.
D'accord. Mais bon. Et donc tu n'as pas l'envie de devenir un vrai écrivain et de raconter un roman un jour?
Je n'en sais rien. On a tous des velléités d'écrivain. Tout le monde porte un livre en soi. Je ne sais plus qui a dit ça, mais bon, on verra.
D'accord.
Mais je n'ai pas d'ambition de ce côté-là. Je suis très heureux d'écrire sur la musique, puisque c'est une des principales passions de ma vie avec le cinéma et la littérature. Mais de là à devenir un écrivain...
Elle, sur la musique de film, ça pourrait être pas mal.
Oui, ou un polar, parce que j'adore le polar, voilà.
Revenons à Jeff Beck, merci pour ce petit aparté sur ton travail. On vient d'écouter Leeds Boots, on est en quelle période? On est dans les années 80, là?
Non, on est en 76, alors une des périodes les plus heureuses musicalement et commercialement de Jeff Beck, puisque après la fin du trio Beck, Bogart et Apice, puis ils se sont séparés, ça n'a pas duré longtemps, et ça ne pouvait pas durer longtemps d'ailleurs, puisqu'il y avait trop de conflits d'ego et de lutte de les humeurs, etc. Il se retrouve un peu le moral à zéro et il ne sait pas quoi faire, il est un peu déprimé. Et un jour à la radio, tant qu'il bricole un moteur dans son garage, il écoute à la radio un morceau de Miles Davis, Jack Johnson, et il se dit « ce morceau m'a sauvé la vie ». Et j'ai dit qu'il y avait encore un espoir pour moi dans la musique. Et il va se plonger dans le jazz rock à l'époque, Miles Davis, hein, c'était 70-71, ces disques-là. Et il a une grande admiration pour John McLaughlin, le guitariste qui jouait sur ce disque-là. D'ailleurs, il aura une grande amitié avec McLaughlin, ils vont tourner ensemble. Et il va avoir la chance, surtout, de trouver pour son prochain projet qui sera instrumental. L'album s'appelle Blow by Blow, il sort en 75, et il sera produit quand même par non moins que George Martin, le producteur des Beatles.
Ah oui, rien que ça.
Et puis, il n'est pas rien.
Le cinquième membre.
Donc, très très belle collaboration. Très belle réussite musicale et surtout commerciale. Et là, Jeff Beck va commencer un peu à gagner de l'argent. Et là, on a écouté un morceau de son deuxième album jazz rock, instrumental, cette fois-ci sans George Martin, mais avec Ian Hammer, etc., qui sera son partenaire, bon, qui joue au synthé. Et moi, pour moi, c'est mon préféré des deux, c'est Wired, qui je trouve qui est beaucoup plus énergique, plus organique, et qui est bourrifant au niveau solo de guitare. Donc si vous voulez vous plonger, et surtout il y a un morceau extraordinaire, une balade, un morceau très doux, très lent, Goodbye Porpoise Hat, un morceau de Charlie Mingus, qui est absolument, que je conseille à tous les gens qui veulent écouter Jeff Beck, foncez sur ce morceau, Goodbye Porpoise Hat, qu'on trouve sur... l'album Wired.
On va revenir à la programmation musicale, on arrive malheureusement presque déjà à la fin de cette émission, on continue le parcours avec Big Block.
Alors, est-ce que c'est le dernier morceau?
Et après, on écoutera avec Johnny Depp.
D'accord. Alors, Big Block, on est en 89.
On a avancé.
On a avancé. Maintenant, Jeff Beck est un peu reconnu. Alors, il reste quand même un musicien confidentiel, puisque ce n'est pas un carriériste. Il n'a jamais voulu chercher à gagner de l'argent, à tout prix, à faire carrière. Il n'aime pas du tout le show business. Il est anti-show business. Donc, lui, ce qui compte, c'est qu'il fait un disque, il fait des tournées, quelques concerts, il gagne un peu d'argent, puis il va bricoler ses voitures chez lui après. Ça lui est arrivé de ne pas sortir d'album pendant 4-5 ans.
C'est ça. On écoute ce morceau, Big Block.
Voilà.
Ensuite, on finira l'histoire de Jeff Beck avec Jean-Sylvain Cabot, que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur. recevons ce soir à l'oreille qui gratte Jean-Sylvain Cabot qui vient de nous parler de son dernier livre sur Jeff Beck, un livre édité Homo et au reste. On vient d'écouter Big Block, on est en 89, on arrive au terme de cette émission. Est-ce que tu peux nous faire 30 ans de Jeff Beck en 3 minutes?
Ça va être difficile parce que je suis un peu bavard et je m'en excuse. Néanmoins, on est en 89, une période importante puisque la guitare électrique a énormément évolué depuis les débuts du rock. Et notamment sous l'impulsion de gens comme Eddie Van Halen, Steve Vai, Joe Satriani, tous ces gens qu'on appelle Shredder, et qu'ils révèrent tous Jeff Beck, qui est une légende pour eux, évidemment. Et Jeff Beck, c'est intéressant parce que là, il reforme un trio, et il refait encore une nouvelle musique. C'est-à-dire, Jeff Beck, c'est un inventeur, il ne se contente pas de faire toujours la même chose, il a envie toujours de faire des choses nouvelles, d'expérimenter. Et dans ce disque, il joue avec Terry Haimas, qui joue au clavier, et surtout un formidable batteur qui s'appelle Terry Bozzio, qui a joué avec Frank Zappa. Et là, dans ce disque important, il y a tout. Il y a du boogie, du blues, du hard rock, du hard fusion, de la ballade, et même un reggae sur ce disque. Et c'est un peu le moule de ses futurs albums, où Jeff Beck, dans les années 90 et 2000, va toujours... être intéressé par les nouveautés technologiques, notamment l'ordinateur, Pro Tools, tout ça. Il va faire des disques en collaboration avec des gens d'un autre milieu, mais de la techno, etc. Dans les années, il va adorer il y a des groupes très connus, The Prodigy, des gens comme ça, et ça va l'influencer. Donc, difficile de résumer 30 ans de carrière en 2 minutes, mais je conseille donc aux personnes que la carrière de très très variée, très intéressante, très riche de Jeff Beck, de pouvoir se plonger dans mon ouvrage, s'ils veulent le bien, parce que malheureusement, moi j'aimerais bien qu'on fasse encore une heure, parce que Jeff Beck, c'est un sujet intarissable, il y a énormément de choses à dire sur le personnage, mais il va rentrer là, en vieillissant, il va devenir une légende vivante, comme beaucoup d'autres qui ont traversé les années 60, 70, etc. Il est reconnu par les médias, par la presse. Je ne dis pas qu'il vend énormément, mais il tourne beaucoup. Il va y avoir sous l'impulsion d'un nouveau manager dans les années 2000. Il va tourner pratiquement partout dans le monde. Il va aller dans des endroits où il n'est jamais allé. Et quand malheureusement, son décès sera un peu brutal, une de ses dernières amitiés, on va dire, musicales, puisque Jeff Beck était très ami avec beaucoup de gens, Stevie Ray Vaughan, Billy Gibbons de ZZ Top, il a joué sur les disques de Roger Waters, de Tina Turner, de Mick Jagger. Bon, il a rencontré, il a joué presque avec tout le monde. Et une de ses dernières amitiés, c'est celle de Johnny Depp. Alors Johnny Depp, ça peut être surprenant, mais on sait moins que derrière l'acteur se cache aussi un guitariste rock, qui adore le rock et qui a joué dans plusieurs petits groupes, et que sa rencontre avec Jeff Beck va être un moment déterminant pour lui, et il l'idolâtre évidemment. Et le dernier de Jeff Beck, c'est celui qui sortira en 2022, qui s'appelle 18, et qui est malheureusement le dernier album de Jeff Beck officiel. Mais il y a un morceau formidable sur ce disque qui s'appelle Isolation, une reprise d'un morceau de John Lennon que j'espère que nous allons écouter pour terminer.
Oui, on l'écoutera. Et comme on se disait avant de démarrer cette émission, au moment de la mort de Jeff Beck, puisqu'on est arrivé à la fin de sa vie, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommages, preuve qu'il avait marqué et qu'il était important. Quoi.
Sa mort est assez brutale, puisqu'il était en concert, il faisait une tournée, et il est mort, il a été pris d'une méningite brutale qui est en 8 jours quasiment, et il n'y a pas d'espoir pratiquement.
Voilà. Et en tout cas, on en a vraiment beaucoup parlé, preuve de son importance à ce moment-là. Ouais. Avant d'écouter ce morceau Isolation avec Johnny Depp sur lequel on va se quitter, tu pars, même si c'est l'émission sur Jeff Beck, et ben on va s'éloigner de Jeff Beck, tu vas partir sur une île déserte.
Île déserte, sur l'oreille qui gratte.
Et sur cette île déserte, tu apportes un disque, un livre et un film. Lesquels?
Ah bon,
après,
ça c'est
dur. Tu peux apporter du Jeff Beck si tu veux, mais on va bien voir.
Non, j'apporterai peut-être un disque des Beatles ou de Jimi Hendrix déjà.
Ouais.
Alors soit Electric Ladyland ou le Double Blanc. Quand même des disques fondateurs pour moi dans mon existence. Ensuite, qu'est-ce que tu as dit, un film?
Un film, toi qui es un grand cinéphile, ça va être difficile aussi.
Ça va être dur, mais je mettrai The Party de Blake Edwards, qui est un film que je revois tous les ans, qui pour moi est un chef-d'œuvre comique avec Peter Sellers, ou L'aventure de Madame Muir, qui est un film romantique absolument magnifique, que je revois aussi assez souvent. Et qu'est-ce qui manque là? Un livre, ouais, ça va être dur. Parce qu'entre Queneau, Julien Gras, Kafka et Vialat, ou Proust, que choisir? Peut-être Proust, parce que l'île déserte, si on y reste longtemps, il faut mieux choisir la recherche. Mais en même temps, Kafka est un des auteurs préférés aussi, donc je partirais peut-être avec pas très gay évidemment, mais bon. Mais disons, allez, Alexandre Vialat, Les Fruits du Congo, des gens comme Henri Calais, des auteurs moins connus, mais pour lesquels j'ai une affection particulière. ou Roulable de Raymond Queneau.
D'accord. Voilà. Bon, en fait, l'embarras du choix sur
oui,
ton
oui. Ben, s'il faut prendre 15, c'est difficile.
D'accord. Merci Jean-Sylvain pour cette heure passée
merci
en notre
toi,
compagnie.
Merci à toi, merci à Agora Côte d'Azur de m'avoir reçu avec autant de gentillesse et un accueil très très sympathique.
Pour le plus grand, c'était notre plus grand plaisir et merci d'être venu au pied levé comme on l'a dit en début d'émission. Voilà, donc on met tous les liens sur notre blog www.loreillequigratte.com de ce qu'on a écouté vers ton livre qui s'appelle tout simplement Jeff Beck, qui a été édité au mot et au reste. Et donc on se quitte sur ce morceau que tu as présenté avec Johnny Depp, le morceau Isolation, donc une reprise de John Lennon. Merci à tous, bonne soirée, bye bye.
At night, don't they know we're so afraid? Solution, we're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Solution, just a boy and a little girl. Try to change the whole wide world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to put us down.
people say we got it made. Don't they know we're so afraid? Ah, ah.